Et on s'est aussi mobilisé avec l'inspection du travail sur certaines atteintes qui ont eu lieu par rapport à leur corps. Mais je laisserai peut-être Marie-Pierre d'abord se présenter et puis on y reviendra peut-être plus tard.
Donc Marie-Pierre, donc moi je suis effectivement inspectrice du travail et je milite au syndicat Sud Travail Affaires Sociales qui dépend de l'Union Syndicale Solidaire. Avec plusieurs camarades aussi d'autres syndicats, hein, on est très très remontés contre ce projet de loi, puisque c'est une atteinte sans précédent hein, aux droits des salariés depuis, on va dire, un demi-siècle hein, quand même. Attaque sans précédent qui continue, hein. Il y a eu quand même plusieurs lois très régressives depuis 15-20 ans quand même, mais ça c'est une continuité et très violente contre le monde salarié. Nous on est confrontés également tous les jours, hein. On reçoit des salariés à nos permanences, on contrôle évidemment les entreprises et donc on est très en colère contre ce projet de loi qui touche au cœur même de la protection même parce que le droit du travail c'est un ensemble de règles et de dispositions qui sont là pour contrecarrer finalement l'inégalité qu'il y a entre l'employeur et le salarié. Donc ça peut-être qu'il faudrait qu'on le développe également, hein. C'est quoi le code du travail et c'est quoi le droit du travail, hein, parce qu'on n'est pas dans une...
À quoi il sert
À quoi il sert, etc. Et donc, et puis également, nous, on a subi depuis maintenant, ça va bientôt faire 2 ans, une réforme de nos services où on veut faire de nous, finalement, des agents de contrôle, on va dire, un petit peu éloignés des préoccupations des salariés et plus tournés vers celles des employeurs. En tout cas, c'est l'orientation telle qui a été développée par le ministère, avec le développement des hiérarchies intermédiaires pour nous orienter sur des missions, on va dire, prioritaires pour le ministère, mais pas pour nous ou pour les salariés qu'on voit tous les jours. Voilà, donc c'est dévoyer aussi nos fonctions un petit peu.
Dans et la capacité à se dire, cette entreprise, je sais qu'il y a un souci et je décide.
Oui, parce qu'il y a, on va plus en plus se développer sur des orientations ministérielles, des priorités ministérielles qui ne correspondent pas forcément à celles qu'on voit sur le terrain. Je donne par exemple un exemple, hein, les orientations ministérielles. Je dis pas qu'elles, parfois elles ne sont pas bonnes, hein, mais en tout cas, c'est par exemple, ça peut être donc là sur l'amiante, faut y aller, il y a pas de souci, hein, mais sauf que nous, on est confrontés tous les jours parfois à de la discrimination syndicale, à du harcèlement, etc. En tout cas, c'est pas les priorités du ministère. Donc eux, ils disent, il faut agir pour donner de la visibilité à l'action d'inspection du travail, mais la visibilité n'est pas forcément celle que souhaite en tout cas, ou celle par rapport à la demande sociale qu'on reçoit tous les jours chez nous, quoi. Voilà, donc après je sais pas comment on va détailler un peu tout ça, mais c'est vrai que le droit du travail c'est historiquement quelque chose, c'est un droit qui est très particulier par rapport à d'autres droits de l'environnement ou n'importe quoi. C'est quelque chose qui, au départ, il existe en fait un lien de subordination juridique, le contrat de travail entre le salarié et l'employeur. Le salarié n'est pas du tout sur un pied d'égalité avec l'employeur. On n'est pas comme un contrat civil. La partie faible au contrat de travail, il faut la protéger. En tout cas, le droit du travail, il est là. Et notamment avec le code du travail, il est là pour fixer des règles, un socle, notamment la loi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très en colère par rapport à ça, parce que la loi va de plus en plus fragiliser en faveur d'accords dérogatoires d'entreprise. Et la loi, elle est là pour dire, attention, il y a des garanties que les entreprises doivent respecter
et qu'un contrat de travail ne peut pas dépasser.
Voilà, ou en tout cas le contrat de travail ne peut pas dépasser. Il doit respecter, en tout cas l'employeur doit respecter certaines dispositions.
Il peut qu'être plus favorable que le code du travail, le contrat de travail.
Donc voilà, donc c'est cette finalement le droit du travail, c'est la contrepartie à cette dépendance économique et c'est l'encadrement finalement de cette subordination juridique qui est la loi, les conventions collectives, les accords d'entreprise et enfin voilà.
Et c'est un droit, enfin le code du travail c'est quand même un droit qui s'est construit sur la durée, qui s'est construit dans la douleur, qui s'est construit suite à des catastrophes industrielles, etc. Donc le droit du travail actuel, il n'est pas sorti en fait de nulle part. Les règles qui existent, elles sont la conséquence de combats, elles sont la conséquence de maladies, elles sont la conséquence même de morts, de d'ouvriers, etc. Oui. Donc on ça vient pas de nulle part, quoi.
Si
voilà.
On revient très loin, où on se posait des questions. Est-ce que les enfants peuvent commencer à travailler voilà, à 8, 10, 12 ans et combien d'heures par jour, quoi.
Tout à fait. Et l'inspection du travail a été créée aussi au 19e siècle pour justement être là pour contrôler finalement ces ouvriers et les jeunes aussi. Il y avait aussi la mise en place du travail limité, le travail des enfants, des
enfants
journalières, etc. Donc c'était historiquement, c'était créé pour ça, quoi, pour vérifier et pour garantir que le peu de lois qu'il y avait à l'époque puisse au moins être respecté, quoi.
Et justement, d'ailleurs, cette loi travail qui touche au code du travail, est-ce que en tant que avocat ou représentant les syndicats et fédérations ou inspection du travail, il y a eu une concertation, une consultation avant, ou est-ce que c'est plutôt du côté du MEDEF que les conseils ont été
consultés.
Vous n'avez pas été au courant avant, c'est ça.
Ça serait, je pense qu'on aurait fait plutôt autre chose. Hein. Parce que moi, j'ai plein d'idées hein, pour réformer le code du travail, il n'y a pas de souci. Mais non, du tout. Bah, on voit bien que
non, là. On aurait pu penser qu'un tel chantier s'intéresse et travaille avec les professionnels et les.
Je pense que la réaction, elle est aussi très violente parce qu'il n'y a pas eu de concertation au départ. Il y a eu, comme tu le dis, une concertation peut-être avec certaines organisations syndicales, mais c'est les organisations patronales, c'est pas les organisations syndicales salariées. Et en tout état de cause, par exemple, le syndicat des avocats de France n'a pas du tout été consulté sur le sujet. Ça, c'est sûr.
C'est surtout pas la volonté du gouvernement. Non. La volonté du gouvernement, c'est de restreindre les droits des salariés en faveur des entreprises. Enfin, c'est dans la continuité également de toutes les lois sociales régressives dans l'Europe. Hein. Enfin, je veux dire, c'est lié aussi avec les politiques européennes. Donc, ils sont pas là pour accorder des droits aux salariés. Au contraire, ils sont là pour les restreindre. Hein. Donc,
avec le prétendu objectif de lutter contre le chômage. C'est l'objectif affiché, mais on voit bien que les précédentes réformes qui ont été mises en place et qu'ont précarisé le droit des salariés dans les autres pays européens n'a pas amélioré le chômage dans les pays concernés. Donc on voit bien que cette réforme, dont l'objectif est la résorption du chômage, aboutira pas, parce que flexibiliser la possibilité de licencier, c'est favoriser le licenciement, mais ça favorise pas les embauches. C'est pas parce qu'on peut plus facilement licencier quelqu'un qu'on va forcément embaucher plus facilement. Et moi, concrètement, je j'espère pas, ou en tout cas, je pense pas, quand un employeur il embauche quelqu'un, il est en train de se dire tout de suite, comment je vais pouvoir le licencier. Enfin, je veux dire, on voit bien que c'est pas, il y a pas de cohérence.
C'est oublié en plus que voilà, un salarié, chez soi, on le forme et on n'a pas envie de le jeter pour en prendre un qu'on va redevoir former.
Et oui, voilà.
Jouer à je prends le même, mais à part intermittence, faut changer les statuts.
Puis là, on voit bien que dans le projet de loi qui est en cours, c'est que les salariés qui seront au sein de l'entreprise auront moins de droits que potentiellement un salarié qui pourrait y rentrer, puisque effectivement, on peut-être conviendra dans le détail sur la possibilité de mettre en place des accords dérogatoires aux accords de branche.
Ben justement, c'était ce qu'on évoquait tout à l'heure en disant un contrat de travail qui peut pas aller en dessous des droits que donne le code du travail. Et c'est justement je crois ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes, terme qui est pas forcément,
c'est ça.
Qui est assez opaque pour un auditeur lambda, mais qui veut bien dire qu'on peut avoir des accords par entreprise qui déroge.
Alors,
ça.
C'est, elle a commencé déjà hein, depuis 2004 quand même cette inversion de la hiérarchie des normes. On disait quoi à l'époque? On disait il y a un principe de faveur en France dans le droit du travail. Il y a la loi. Après, il peut y avoir des accords de branche et des accords d'entreprise qui ne peuvent déroger dans un sens défavorable à ce que prévoit la loi. Et ensuite, en dessous, il y a le contrat de travail qui, lui, évidemment, ne peut pas aller dans un sens moins favorable que ce que ne prévoient les accords d'entreprise, les accords de branche. Et la loi. Donc en fait, en haut, il y a la loi, les accords de branche. Les accords de branche, c'est par exemple, pour donner un exemple, il y a je sais pas combien de, j'ai plus en tête le nombre de conventions collectives, mais par activité, il y a des organisations syndicales patronales et de salariés de la branche d'un secteur, donc il y a les transports, les déchetteries, enfin un certain nombre d'entreprises, de secteurs d'activité qui négocient des droits, bien évidemment plus favorables que ce que prévoit la loi. Et ensuite, il y a les accords d'entreprise, dont chaque entreprise, les salariés, les organisations syndicales vont négocier avec le patron pour améliorer un certain nombre de leurs conditions de travail, etc. Et ces accords d'entreprise doivent être, en tout cas, plus favorables que ce que ne prévoyaient les conventions de branche. Et après, il y a le contrat de travail qui, lui, enfin voilà, c'était le dernier... dernier socle, on va dire. Et tout ça vole en éclats aujourd'hui, puisque dans le projet de loi, il y a encore de l'ordre public, mais à minima. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle la négociation de branches et d'entreprises, où là, c'est très, très, très développé. On pousse à ce que tout se fasse par accord d'entreprise. Et de porter la responsabilité des syndicats aussi, de dire regardez ce qui se passe dans les entreprises, c'est les syndicats aussi qui négocient, parce que ça aussi ça veut dire un changement d'orientation. Et après, ce qu'on appelle, il y a des mesures supplétives. À défaut d'accord, l'entreprise, l'employeur, il pourra prendre des mesures unilatéralement, tout seul. Voilà. Donc on tout ça, ça vole, et les accords d'entreprise vont évidemment déroger dans un sens moins favorable que ce que ne prévoit la loi. Et c'est ça ce qui est plus scandaleux dans cette... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont scandaleuses, mais ça fait un gros point. C'est ça, c'est-à-dire qu'un accord d'entreprise va pouvoir déroger dans un sens moins favorable que ce que ne prévoit la loi.
Voilà. Et avec des salariés voilà, qui n'auront pas forcément les capacités à négocier, si les syndicats sont affaiblis, parce qu'il n'y aura pas forcément besoin de discuter avec...
Tout à fait. Et moi, je pense beaucoup aux PME, TPE, hein, où la majorité des salariés se trouvent dans les PME, TPE, où il y a peu de présence syndicale, peu de rapports de force. Donc, c'est eux qui vont quand même en subir le plus de conséquences de cette loi. Du coup, il y aura possibilité de négocier avec un salarié mandaté par une organisation syndicale, et à la rigueur, après, faire un référendum d'entreprise pour aller valider un accord par la majorité des salariés. Mais ça, c'est du chantage, finalement, on sait très bien, à l'emploi, quand il n'y a pas de rapport de force dans les entreprises. Et on laisse, finalement, il va se développer en France, si la loi passe, une multitude, finalement, de situations très différentes d'une entreprise à une autre, avec des droits très différents, en fait, des droits à la carte. On va travailler, il y a un salarié d'un même secteur d'activité, mais dans une PME, il va peut-être avoir rien du tout, lui, avec un accord ou des dispositions supplétives avec un patron qui voudra donner un minima, hein, normal, hein, il défend ses intérêts. Et en face, une entreprise où il y a un peu de rapport de force, une grosse boîte, avec des syndicats qui se battent, combatifs, où ils pourront peut-être faire ou obtenir des choses en faveur du salarié. Enfin, voilà, donc on va avoir effectivement une multitude, finalement, de sources juridiques de droit très différentes si tout se passe par accord d'entreprise.
Et ce qui entraîne... aussi un dumping social entre les entreprises d'un même secteur d'activité. Parce que l'entreprise qui réussira à négocier un accord le plus défavorable, évidemment, elle sera en position de concurrence plus favorable que l'entreprise d'à côté. Donc on va se retrouver avec des situations qui seront complètement hallucinantes, sachant que là, la protection de départ du contrat de travail qui, en fait, ne pouvait être que plus favorable à toute la hiérarchie des normes qu'a rappelé Marie-Pierre, même si son contrat de travail est plus favorable que l'accord d'entreprise qui sera signé, il sera obligé d'appliquer l'accord d'entreprise. Ça veut dire que le salarié qui avait négocié des conditions de travail dans le cadre de son contrat de travail ne pourra plus se retrancher derrière le contrat qu'il avait signé avec son employeur, et s'il refuse d'appliquer cet accord qui est moins favorable que son contrat de travail, eh ben son licenciement sera automatiquement causé. Ça veut dire qu'il ne pourra pas contester son licenciement devant le conseil de prud'homme, puisque la loi prévoit qu'à partir du moment où cet accord existe et qu'il remplit les formes de validité, eh ben, le licenciement est causé. Donc, il sera de toute façon applicable à tout le monde, et les salariés qui individuellement diront non, je veux pas l'appliquer, ils sortiront de l'entreprise. Leur contrat sera rompu.
D'accord. Et on est aussi en train de créer des entreprises qui feront du... du sous-emploi en fait, avec ou des horaires ou des conditions salariales qui seront différentes, qui effectivement les rendront concurrentielles, mais quand on se plaint de certains, voilà, de certains salariés qu'on délocalise, là on délocalise sur place en gros, de toute façon.
Oui, c'est un peu ça. Oui, oui, c'est un vrai dumping social au sein d'un même secteur activité. Alors, même si on nous dit la loi prévoit des garde-fous, par exemple, la rémunération ne pourra pas être changée dans le cadre d'un accord d'entreprise qui sera créé, c'est vrai que la rémunération ne pourra pas être changée. Par contre, la durée du travail, elle pourra être augmentée. Donc, dans les faits, le taux horaire du salarié sera diminué, même si sa rémunération mensuelle, en fait, ne sera pas changée. Donc, même les garde-fous soi-disant qui sont présents dans cette loi, ils protègent absolument pas les salariés.
Non mais quand même, quand on veut, enfin on peut quand même donner des exemples pour un peu illustrer quand même. Alors il y a peut-être des choses qui ont été modifiées entre temps sur le.
Oui, c'est vrai.
Donc je vais prendre des précautions. J'avais suivi jusqu'au bout, mais là il y a peut-être mais quand même l'objectif de ce projet de loi, c'est quand même faire travailler plus les salariés pour gagner moins de manière générale. Avec ces accords d'entreprise, notamment sur, moi je pense notamment à l'organisation du travail et à la durée du travail. Aujourd'hui, donc en France, on peut par accord d'entreprise annualiser le temps de travail au maximum sur un an avec des syndicats qui souhaitent signer un accord dans ce sens-là. Ou à défaut, l'employeur de manière unilatéralement peut décider de calculer les heures supplémentaires sur 4 semaines. Demain, avec le projet de loi, ce qui est prévu, c'est qu'on peut alors c'est sur accord de branche. Avant c'était accord d'entreprise, ça a bougé. Et maintenant ils disent ok, c'est que de l'accord de branche. Mais il n'empêche, un accord de branche pourra prévoir autoriser que on puisse calculer les heures sup sur 3 ans. Mais calculer les heures sup sur 3 ans, en gros c'est scandaleux. Je trouve pas les mots. Mais déjà, est-ce que les salariés vont rester pendant 3 ans parce que hop, on va flexibiliser aux trans et puis ça se trouve, on va pouvoir jeter les salariés avant même la durée des 3 ans. Et puis même 3 ans payer les heures sup, ça veut dire qu'il va rien avoir. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aménager son avec des semaines hautes et basses d'activité sur 3 ans, et ils auront rien les salariés. Et après on passe à 9 semaines où l'employeur pourra décider unilatéralement de calculer les heures supplémentaires. Ça, c'est un des exemples, on peut en donner d'autres hein, sur la durée du travail, mais il y a celle-ci, il y a les heures supplémentaires aussi. Les 8 premières heures sup en France, dans le Code du travail, c'est 25%, au-delà, c'est du 50%. Maintenant, l'accord d'entreprise, pour aller à 10%, on pourra accepter 10% par accord d'entreprise. Donc, c'est concret, ce projet de loi, il est concret pour les salariés.
J'ai entendu un syndicat dont je tairai le nom ce matin dans une autre radio dire, mais c'est très bien s'ils en ont envie de passer à 20, de passer à 10.
Ils en ont envie, mais...
Non, mais c'est en échange, ils gagneront, des compensations adaptées à leurs problèmes. On leur payera une nounou, peut-être. Oui, qu'il ait des enfants. Enfin voilà, on entend quand même des syndicats trouver normal qu'on paye moins des heures supplémentaires.
Non mais ça, il y a toujours eu des syndicats jaunes. Ça, on va pas. De toute façon. Mais après, il y a d'autres trucs. Il y a les forfaits jours aussi qui sont étendus dans les entreprises. Maintenant, avec le projet de loi, alors le forfait jour, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il peut y avoir, notamment pour des cadres, on va dire autonomes, ou qui se démarquent, de l'organisation classique du travail, de leur dire, voilà, vous allez travailler 213 jours par an. Alors par contre, la contrepartie très négative, c'est qu'on ne calcule pas la durée maximale du travail, puisqu'ils ne sont pas soumis à des durées contraintes de maximale hebdomadaire, journalière, etc. Et bien demain, avec le projet de loi, on pourra étendre aussi dans les entreprises de moins de 50 salariés, par simple accord avec un salarié mandaté, la possibilité de passer au forfait jour. Enfin voilà, il y a ça, il y a le travail de nuit aussi, qui se calcule maintenant 40 heures, non plus sur 12 semaines, mais sur 16 semaines. Il y a les heures complémentaires aussi pour les salariés à temps partiel, qui vont être pénalisés également. Donc ça touche aussi mes salariats, le salariat le plus précaire, féminisé, etc. Donc c'est des régressions sociales de partout. Et puis, il y a le fameux, quand même, licenciement économique. J'aimerais bien qu'on s'y attarde un peu. Oui. Parce que, aujourd'hui, je vais reprendre quand même la définition, j'ai sous les yeux. à la définition du licenciement économique. Alors c'est un peu long, je vais faire court aujourd'hui. L'article du Code du travail dit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur par un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Est-ce que ne prévoit pas le Code du travail aussi la jurisprudence qui dit que maintenant pour faire la sauvegarde de la compétitivité économique, on peut également licencier pour motif économique. Aujourd'hui, la nouvelle rédaction de la définition du motif économique avec le projet de loi, ça sera le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par un salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment. Et là, il commence à lister. Et c'est la liste qui fait un peu peur, je vais vous expliquer après. Donc, à des difficultés économiques caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs, en comparaison avec la même période de l'année précédente, soit par des pertes d'exploitation pendant plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés, à des mutations technologiques, bon ça, et à la sauvegarde de la compétitivité, etc. Donc en fait, avant, que faisait le juge ? Il regardait si les difficultés économiques étaient réelles et sérieuses. Donc c'était à l'employeur à apporter des justifications par rapport à sa situation économique. Aujourd'hui, avec la liste baisse du chiffre d'affaires sur trois trimestres, mais c'est facile. L'employeur, il va faire quoi ? Il va organiser ses baisses du chiffre d'affaires sur plusieurs trimestres. Il va dire, regardez, j'ai des difficultés économiques et les licenciements économiques seront justifiés, quoi. Donc, en fait, la marge d'appréciation du juge, elle sera réduite en ce qui concerne les difficultés économiques.
Et après plusieurs mois, on dit pas combien, donc c'est...
Mais de toute façon, c'est facile. On donne du mou à l'employeur pour organiser les difficultés économiques, etc. Et l'autre scandale, c'est que aujourd'hui, quand on appartient à un groupe, les entreprises qui appartiennent à un groupe, on regarde les difficultés économiques au niveau du secteur d'activité, au niveau de l'ensemble du groupe. International, hein, c'est-à-dire si un groupe est international, a des implantations à l'étranger, on regarde la situation économique du secteur d'activité dans le groupe dans lequel sont rattachés les salariés. Et ben demain, le côté international n'existera plus. On va regarder toujours les difficultés économiques du secteur d'activité dans lequel se trouve l'entreprise, mais simplement en France. Donc, ça veut dire que les camarades et les copains de Goodyear, Molex et Conti qui ont gagné sur le motif économique aujourd'hui pour dire, mais attendez, l'entreprise, elle est rentable, regardez ce que les bénéfices qu'ils font, regardez la situation économique en dehors de la France, etc. Et ben demain, avec le projet de loi, tout ça, on pourra plus gagner sur ce terrain-là.
Et là aussi, l'entreprise peut facilement l'organiser. Et
évidemment, mais ça, c'est... Oui, facilement, quoi. Voilà.
Et en plus, c'est vrai que le fait de regarder les difficultés économiques au niveau du groupe, ça, c'est des constructions jurisprudentielles. Ça veut dire que la définition du motif économique, d'un licenciement pour motif économique aujourd'hui, c'est pareil, c'est une construction qui s'est faite sur du long terme, etc. Et la définition qui est faite dans ce nouveau projet de loi, elle va complètement bouleverser ce que la jurisprudence avait construit depuis des années et des années sur ce qu'est un motif économique valable ou pas. Donc il y a le licenciement économique et puis il y a aussi un autre élément qui est important, c'est la médecine du travail, la santé au travail des salariés, puisque il y a voilà cette loi travail, elle attaque quand même le droit du travail sur des éléments qui sont fondamentaux. Ce sont des éléments qui sont fondamentaux, donc les accords d'entreprise, le licenciement économique, et puis la médecine du travail. Aujourd'hui, quand un salarié est embauché, il doit bénéficier d'une visite médicale d'embauche et d'une visite périodique tous les deux ans. Le projet de loi supprime définitivement la visite médicale d'embauche et cette visite médicale périodique tous les deux ans, sauf pour les salariés un risque, alors je sais jamais si c'est risque grave ou risque particulier. Voilà, on n'est même pas sur du risque grave, on est sur du risque particulier. Bon, évidemment, on ne sait pas à quoi correspond le risque particulier. Est-ce que ça correspond à des suivis particuliers qui sont faits aujourd'hui, par exemple pour les travailleurs de nuit qui ont un suivi médical renforcé ? Est-ce que c'est ça ? On ne sait pas. Donc, en tout cas, il y a vraiment au niveau de la santé au travail une régression très importante sur le suivi des salariés par le médecin du travail.
Il y aura également la suppression pour les travailleurs de nuit de la visite obligatoire tous les 6 mois. Voilà. Donc c'est super. Donc ça veut dire qu'en fait tout ça, en plus derrière, il y a des conséquences directement aussi pour la santé des salariés, quoi.
Donc tout ce qui pourrait être lié à ce qu'on appelle la pénibilité, là, ça n'existe plus.
Bah, en tout cas, au niveau de la visite médicale, alors la pénibilité, elle est définie. Là, il va y avoir des décrets d'application qui vont tomber parce que c'est assez complexe. Paradoxalement, alors, c'est assez paradoxal parce qu'il y a de plus en plus aussi de choses qui sortent au niveau des droits par rapport à la santé au travail, mais on donne pas les moyens pour vérifier tout ça. Et la visite, le médecin du travail, la médecine du travail, là, c'est la mort, malheureusement, de la médecine du travail. Et le rôle du médecin, c'était d'avoir un regard sur la santé au travail, au poste du travail, au moment où le salarié va prendre son poste, périodiquement, tous les 2 ans, maintenant c'est passé à 4 ans. Et régulièrement sur quand on était sur des postes à risque, et notamment les travailleurs... de nuit, là, voilà, ils n'auront plus de visite obligatoire tous les 6 mois. Donc on est vraiment là sur, en plus des attaques concrètes sur les droits, mais sur, il y a des conséquences sur la santé directe des salariés, quoi.
Alors j'avais vu dans les amendements quand même que dans les travailleurs à risque particulier, ils ont quand même rajouté dans les amendements les travailleurs handicapés et les travailleurs en invalidité catégorie 1, puisque catégorie 2, on n'est plus censé pouvoir travailler du tout. Donc ils ont quand même mis d'office ces salariés-là dans le cadre des salariés à risque particulier qui bénéficieront, eux, d'une visite médicale qui sera préalable à l'embauche. Ça veut dire que les salariés seront censés avoir vu le médecin du travail avant concrètement de commencer leur contrat de travail. Et c'est vrai que le rôle du médecin du travail aussi dans le cadre de la procédure d'inaptitude est modifié, puisque comment expliquer ça?
Alors déjà, il y a un point aussi. Oui. Tout salarié dans une entreprise aujourd'hui peut contester l'avis rendu par le médecin devant l'inspecteur du travail. Aujourd'hui, ça c'est supprimé. Donc ça sera directement les conseils des prud'hommes.
Conseils des prud'hommes.
Alors, nous, on avait quand même un regard. On suit les entreprises. On connaît un peu ce qui se passe dans les entreprises et conditions de travail. Donc il y avait un lien, on va dire, particulier et direct entre le salarié et, on va dire, l'inspection du travail. Donc ça, dans le projet de loi, c'est supprimé également.
Donc ça veut dire aussi que vous en avez plus connaissance. Vous ne pouvez plus avoir ce regard.
Bah, en tout cas, nous, on n'aura plus à traiter les recours des salariés contre les avis médicaux qu'ils souhaitent contester. Ça sera plus nous qui les traiterons, quoi. Voilà. Et
ils seront en fait les salariés devront saisir en la forme des référés le conseil de prud'homme pour que le conseil de prud'homme désigne un expert, un médecin expert. Comment, pourquoi, évidemment, on ne sait pas, qui examinera situation physique et mentale du salarié pour voir s'il est inapte ou pas à son poste de travail. Donc on aura finalement un médecin expert qui sera à l'extérieur de l'entreprise, qui ne connaît pas l'entreprise, qui devra se prononcer sur l'aptitude physique ou pas du salarié, sachant que quid des frais d'expertise, parce qu'un médecin expert c'est toujours, enfin il va falloir avancer les frais, comment ça va se passer. En tout cas, ce sera plus difficile pour un salarié de contester l'avis d'inaptitude du médecin du travail avec cette loi que aujourd'hui. Et sur l'inaptitude en elle-même, alors là aussi donc il y a une modification du rôle du médecin du travail. Une fois que le médecin du travail en fait aura déclaré le salarié inapte à son poste, il sera beaucoup plus difficile pour le salarié de contester devant le conseil de prud'homme son licenciement pour inaptitude, puisque aujourd'hui un médecin du travail pouvait déclarer un salarié inapte et le salarié pouvait donc saisir le conseil de prud'homme pour contester cette inaptitude. Et cette inaptitude, elle pouvait, ce licenciement pour inaptitude, il pouvait être contesté notamment en disant que l'employeur avait commis des manquements graves dans le cadre d'exécution du contrat de travail et que l'inaptitude, de fait, elle était liée au comportement fautif de l'employeur. Aujourd'hui, une fois que le salarié aura été déclaré, enfin avec la nouvelle loi, une fois que le salarié aura été déclaré inapte, cela veut dire que le salarié ne pouvait pas être reclassé au sein de l'entreprise. Ça veut dire que le médecin du travail, avec une équipe pluridisciplinaire, devra examiner si l'état de santé du salarié est compatible avec un poste au sein de l'entreprise. Et s'il n'y a aucune possibilité de reclassement possible, le salarié sera déclaré inapte et le médecin du travail pourra faire des propositions d'aménagement de son poste de travail. Et il suffira pour l'employeur de faire une proposition d'emploi pour que le salarié en fait ne puisse plus contester devant le conseil de prud'homme les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, ça veut dire que la charge de la preuve est inversée. Mmh. Aujourd'hui,
en gros, c'est le salarié qui est déclaré comme fautif si...
C'est un peu ça. Ouais. Ça veut dire que, si vous voulez, le salarié devra finalement démontrer que le poste qui lui a été... Parce qu'il suffira d'un poste pour que ce soit considéré comme suffisant pour que le licenciement soit causé. Il devra en fait lui démontrer, il aura plus de mal en fait à démontrer que l'absence de reclassement au sein de l'entreprise était possible. Voilà, par cette loi. Ça inverse la charge de la preuve.
En fait, ça affaiblit la responsabilité de l'entreprise à reclasser... à faire ce qu'on appelle une recherche sérieuse et loyale, des postes de travail dans l'ensemble de l'entreprise et voire du groupe, encore une fois. Voilà. Donc il suffit de proposer un poste.
Un poste,
ça peut être n'importe quoi en fonction de ses qualifications et des recommandations du médecin, mais derrière, il n'y a pas une volonté de l'entreprise de reclasser, de chercher pour le salarié accepter. Ça peut être un poste à 500 km de là, et avec les difficultés de mobilité géographique, on va dire, écoutez, on vous a proposé un poste, c'est bon, quoi.
On se retrouve après une pause musicale. Of the men working on the chain, yeah, yeah. That's the sound of the men working on the chain, yeah. Chain, yeah. Well, now let's go upstairs or maybe on the ground, because the subways, they run all over town. Whatever the outcome, so be it. I'm gonna tell it exactly how I see it. Some noisy wheels I call the big bangers. This is dedicated to all strap hangers. If you're lucky enough to get a seat, and those who ride hanging on or standing on 2 feet. Yo, 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 wait up, my man, please hold the doors. Ha ha, now where have I heard that before? Jam packed back to back, but you can't complain, cause that's how you're living on the subway train. Oh no! That's the sound of the men working on the chain. Yeah, yeah. That's the sound of the men working on the chain. Yeah, come on. That's the sound of the men working on the chain. Yeah, yeah. That's the sound of the men working on the chain. Yeah. Brighton Beach or Times Square, they'll go anywhere. Don't get arrested, come on, pay your train fare. Back in the days it was fun, but in retrospect it was dumb. I used to ride on the roof and in between cars, and if I ever fell I'd see more than stars. Yes, from Coney Island straight up to White Plains, that's what I used to do, taking the trains. Ha! That's the sound of the men working on the chain. Yeah, yeah. That's the sound of the men working on the chain. Yeah. All kinds of people I'd meet, just about anybody I'd give my seat, pregnant women, old people, it didn't matter who. Oh yeah, and you know there was some fine girls too. Yes, I didn't rock no gold, but I did play the role and getting all the phone numbers satisfied my soul. From Susan, Sandra, Patsy, and all Mary Jane. Yeah, I met them all on the subway train. Come on! That's the sound of the men working on the chain. Yeah, yeah. That's the sound of the men working on the chain. Yeah. That's the sound of the men working on the chain. Yeah, yeah. That's the sound of the men working on the chain. Yeah. I know that everybody relates to this. You gotta admit.
admit, rush hour is a bit much to deal with, especially after a hard day's work. Pickpockets on the loose, so you gotta stay alert with guardian angels and cops. You'll be safe even after you stop. Why, but life just wouldn't be the same if you're off a live without the subway train. That's the sound of the men working on the chain. Yeah, yeah. That's the sound of the men working on the chain. Yeah. That's the sound of the men working on the chain. Yeah, yeah. That's the sound of the men working on the chain. Yeah. Excuse me, good evening. My name is Arnold Perducci, Bozak Jimbrowski III. I'm currently taking up collections from my next door neighbor's aunt, sister, uncle, niece's nephew, who's currently trying to make their way through college. Anything you can give out of the kindness of your heart will be greatly appreciated. Thank you and have a nice evening. Thank you. Thank you. That's the sound of the men working on the chain. Yeah, yeah. That's the sound of the men working on the chain. Yeah. That's the sound of the men working on the chain. Yeah, yeah. That's the sound of the men working on the chain. Yeah. That's the sound of the men working on the chain. Yeah, yeah. That's the sound of the men working on the chain. Yeah.
Donc on écoutait Shine Head, la chanson Shine Gain. Et donc on se retrouve avec Lucie, avocate en droit du travail et membre du syndicat des avocats de France, et Marie-Pierre, inspectrice du travail. Donc on a un peu décortiqué tous les côtés, et il y en a a priori surtout des mauvais de la loi travail, avec notamment la question des accords dans les entreprises qui pourraient donner des droits inférieurs à celle de la loi, l'assouplissement des licenciements économiques, les modulations du temps de travail, la question de la médecine du travail. Et donc on a surtout parlé des conséquences pour les travailleurs, hein, ou des qui deviennent des non-travailleurs, et ça pose aussi la question effectivement des droits des chômeurs et de ceux qui risquent de se retrouver au chômage suite à cette loi.
Bah oui, parce que la loi travail, elle prévoit aussi dans son article 52 une attaque aussi aux droits des chômeurs. Et pour être très rapide, cette loi, elle revient sur une victoire qui a été obtenue devant le Conseil d'État. Alors c'était en fin d'année 2015 par plusieurs organisations syndicales et d'associations de précaires qui avaient saisi le Conseil d'État pour faire annuler certaines dispositions de la dernière convention UNEDIC. Et le Conseil d'État avait répondu favorablement à certaines demandes qui avaient été formulées, et notamment avait interdit à Pôle emploi la possibilité de pratiquer ce qu'on appelle le différé spécifique d'indemnisation, ce qui fait que, par exemple, quand on gagne devant le conseil de prud'homme des dommages et intérêts, ces dommages et intérêts peuvent être pris en compte à hauteur de 6 mois par Pôle emploi, ce qui décale d'autant le moment où les gens vont percevoir leur aide, leur assurance chômage. Donc il y avait eu plusieurs victoires comme ça qui avaient été obtenues devant le Conseil d'État, et ça n'avait absolument pas plu au MEDEF, qui avait sommé le gouvernement de régulariser la situation. Et la loi travail, effectivement, régularise les victoires qui ont été obtenues devant le Conseil d'État et revient sur certaines dispositions qui avaient été annulées. Par exemple, le projet de loi prévoit la possibilité de neutraliser ce qu'on appelle les périodes d'emploi qui sont déclarées tardivement, qui ne pourront donner lieu ni à allocation ni indemnisation. Cela veut dire que si quelqu'un qui s'inscrit à Pôle emploi déclare trop tard les périodes qu'il a travaillées, par exemple parce qu'il a son solde tout compte en retard, oui, hein, ou son bulletin de salaire qui lui arrive trop tardivement, et bien qu'elle soit cotisée, ces périodes ne pourront donner lieu à une aide au retour à l'emploi, donc ce qui est totalement scandaleux. Et cette loi aussi permettra à Pôle emploi de ponctionner arbitrairement sur les allocations qui sont versées aux demandeurs d'emploi ce que Pôle emploi considère comme un indu. Ça veut dire que Pôle emploi pourra décider d'envoyer un courrier aux chômeurs en leur disant vous me devez par exemple 1000 euros parce que on vous a trop versé pour X raison, et ponctionner automatiquement sur le montant des ARE qui sont versés, alors qu'aujourd'hui Pôle emploi est dans l'incapacité de pouvoir opérer ce type de ponctionnement, bien qu'il le fait dans la pratique, hein, mais il a pas, la loi ne lui permet pas, ni la convention UNEDIC. Il faut que Pôle emploi saisisse le juge, où il y a une procédure particulière pour qu'il puisse le faire. Et là, il pourra le faire automatiquement, sans contrôle du juge.
Et sans information préalable.
Il faudra quand même qu'il informe préalablement, mais même si le chômeur conteste de voir cet argent, Pôle emploi pourra automatiquement récupérer ces sommes sur les allocations qui seront versées. Donc là encore, on inverse la capacité d'action. Ce sera au final au chômeur de saisir lui-même la juridiction pour que ce soit un juge qui stoppe le ponctionnement effectué directement par Pôle emploi.
Pas forcément même le stopper, mais récupérer son dû.
Et récupérer son dû.
Si ça voilà. Que...
Tout à fait. Donc évidemment, c'est une atteinte qui est assez grave aux droits des demandeurs d'emploi, quoi.
Et en termes d'inspection du travail aussi, les conséquences.
Alors nous, les conséquences de la loi travail, elle est donc on va les ressentir dans la pratique quotidienne nous de notre travail, puisque ce qui va nous poser problème, en tout cas, on s'interroge fortement sur. Le contrôle des règles de droit face à une multiplication des accords dérogatoires, des accords d'entreprise. Puisqu'aujourd'hui, nous, ce qu'on appelle le droit pénal du travail, c'est que les articles du Code du travail, des articles normatifs qui prévoient, par exemple, la durée du travail, le repos, par exemple, quotidien est de 11 heures. On a un autre article qui dit que si ce repos quotidien n'est pas respecté, c'est une infraction. Et on peut verbaliser l'employeur. Donc on dresse un procès verbal, on verbalise pour non-respect de l'article normatif. Il y a des articles répressifs du Code du travail. Avec le développement des accords d'entreprise qui dérogent finalement au Code du travail, enfin aux lois qui est prévues dans le Code, qui est inscrit dans le Code du travail, va se poser le problème de la répression. Enfin, de la répression en matière de non-respect par l'employeur du droit du travail, puisqu'on va être de plus en plus dépourvus, nous, en tant qu'agents de contrôle, pour finalement dresser des procès-verbaux pour un employeur qui risque de ne pas respecter l'accord même d'entreprise qu'il a négocié.
Comment est-ce que les sanctions sont prévues?
Alors justement, là, il y a un gros flottement. Pour l'instant, on n'en sait rien. S'il y a un article du Code qui dit que pour non-respect des accords d'entreprise, on peut verbaliser, etc., mais pour l'instant, on n'en sait trop rien. Il y a un gros flottement, et nous, on se pose de véritables questions en matière de droit pénal du travail. D'autant plus qu'il va y avoir aussi quelque chose de très opaque, c'est-à-dire que nous, on a quand même l'habitude de dire on a notre code du travail, on a aussi des accords d'entreprise qui viennent sur généralement c'est sur la durée du travail, et l'aménagement du temps de travail, mais voilà, mais maintenant si tout est soumis, et pas mal de choses à dérogation par des accords d'entreprise, ça va être un gros foutoir pour pouvoir savoir quelle est la nature du droit, qu'est-ce qui est applicable ou pas dans l'entreprise.
Est-ce qu'il sera, on parlait tout à l'heure du fait que c'est de plus en plus aux salariés de faire, qui a la charge de la preuve, mais oui. Comment oser aller voir un juge en sachant ce que ça risque de coûter quand on n'est pas sûr?
Et ça, c'est toute la problématique. Et
son droit.
C'est vrai que le projet prévoit qu'il y ait une banque nationale publique qui est censée répertorier tous les accords d'entreprise dérogatoires qui seraient signés. Le problème, c'est que à l'issue de la signature, il suffirait d'un signataire pour que cet accord ne soit pas publié. Et alors, ce qui pourrait être mis en avant, c'est une publication qui pourrait aller à l'encontre des intérêts de l'entreprise, sans évidemment que l'intérêt de l'entreprise soit là encore défini. Donc on imagine que la non-publication de tous ces accords pourrait être très facile au final. Et c'est vrai qu'on aurait vraiment un problème d'opacité, et les salariés eux-mêmes, c'est vrai qu'ils pourraient se poser la question de l'accès au juge, parce que est-ce que voilà, je suis dans mon droit, est-ce que je... Voilà,
Je vais donner un exemple très concret. Nous, chez nous, au ministère du Travail, on a ce qu'on appelle le service des renseignements. Donc, tout salarié peut venir se renseigner sur ses droits applicables dans l'entreprise. Le service de renseignement, lui, il a le code du travail, comme tout le monde, et toutes les conventions collectives. qui peut convention collective nationale, donc un certain nombre qui peut renseigner. Mais après la multiplication des accords, comment va se faire le renseignement? C'est un service public de renseignement, comment il va le faire de manière effective et efficace pour donner la bonne réponse aux salariés, lui-même salarié ne sachant même pas parfois, la majorité des salariés, sauf si c'est des représentants du personnel, ils connaissent quasiment pas les accords d'entreprise qui existent dans leur boîte, quoi, hein. Ça, c'est une réalité de terrain. Donc du coup, là, encore une fois, en termes de renseignement des salariés eux-mêmes sur leurs propres droits, et nous-mêmes, en tant qu'agent de contrôle ou service de renseignement, devant donner la bonne réponse aux salariés sur ce qui est applicable ou pas dans l'entreprise, et sur le suivi des infractions, enfin, c'est la porte ouverte, enfin, le patronat est très content, là, aujourd'hui, hein. Donc, non, vraiment, c'est très inquiétant, et moi, je voulais aussi rajouter quand même, parce que l'heure tourne, que ce que là, pour l'instant, on dit, la fonction publique n'est pas touchée. Sauf que faut pas se leurrer, toute réforme qu'on connaît très dure dans le secteur privé, généralement derrière, c'est des réformes de la fonction publique qui suit derrière. Oui. Donc là, on sait très bien que est dans les tuyaux une remise en cause de la fonction publique, notamment sur l'organisation du travail. Donc c'est dans les tuyaux, etc. Moi, je pense que si ce projet de loi passe, derrière, c'est les réformes de la fonction publique qui vont passer pour mettre à niveau le droit du travail privé avec celui de la fonction publique, et ça va être une catastrophe également. Donc les fonctionnaires risquent d'être touché très rapidement, malheureusement, si on ne se bouge pas plus. Mais bon, pour l'instant, ça commence un petit peu à bouger, quoi. Malgré les répressions policières.
Je voulais revenir sur les accords d'entreprise. Est-ce que, bon, c'est un accord, disons, qui, si salariés et patronat dans l'entreprise ont pu se mettre d'accord, est-ce que ça la rend tout de suite applicable et légale, ou est-ce qu'il y a quand même un contrôle à un certain niveau pour que l'accord n'aille pas trop loin dans la dégradation des conditions de travail?
Mais il faut qu'il soit
l'accord suffit, même si c'est fait sous pression ou sous faute d'information.
Après, il y a des règles, il faut qu'il soit déjà déposé. Alors, il faut qu'il négocie. Nous, il y a un service accord chez nous qui enregistre les accords d'entreprise, qui regarde, alors pour certains, mais pas sur tous les accords, qui regarde à minima les dispositions légales. Moi, je pense par exemple au PSE. Le PSE, c'est un accord, le plan de sauvegarde de l'emploi, les plans sociaux, c'est un accord d'entreprise maintenant, hein, avec les dernières lois. Là, maintenant, on peut le négocier. Et eux, donc, il y a un service qui regarde spécifiquement si le minimum est respecté à minima. Donc après, si la loi prévoit qu'ils peuvent déroger
à tout,
enfin en tout cas, ça va dépendre du contenu de la loi, en disant voilà ce que l'accord d'entreprise peut déroger, sauf si avec un socle, etc. Mais autrement, un accord d'entreprise, c'est finalement c'est se mettre d'accord entre des organisations syndicales de salariés et l'employeur, hein, sur des règles de droit dans l'entreprise. Hein.
On peut tout imaginer. On peut dans ces accords, on peut tout imaginer. À partir du moment où la condition de validité tient sur l'organisation qui l'a signé, s'il y a eu un référendum, etc., il tient. La seule possibilité de nullité qui est prévue par le texte, c'est l'absence de préambule de l'accord. Alors ça, c'est un truc qui est un peu curieux. C'est que si cet accord ne contient pas de préambule, ou en tout cas un préambule suffisant qui définirait en fait l'objectif de cet accord, il pourrait être annulé. Donc on n'a pas plus, c'est pareil, on n'a pas plus d'éléments par rapport à ça, mais c'est quand même un élément important pour nous qui défendons les salariés, puisque si cet accord ne contient pas de préambule ou qu'il n'explique pas évidemment l'objectif de cet accord
Rogatoire,
voilà. On pourrait le faire annuler, mais sinon, à part ça.
Mais le fait, par exemple, que ce préambule qui donne les objectifs et que l'accord lui-même ne permette pas ou aille à l'encontre des objectifs affichés, ça donne pas forcément la possibilité de le.
Non, on irait sur plutôt des contentions individuelles et devant le conseil de prud'homme, et on irait sur l'exécution fautive des obligations contractuelles de l'employeur puisqu'il n'a pas respecté l'accord d'entreprise. Mais de là à le faire annuler, moi je vois pas comment est-ce qu'on pourrait sur le fond, sur ce qu'il prévoit spécifiquement.
Et aujourd'hui, il y a encore pas mal dans les entreprises des accords qui sont illégaux. Hein. Je pense aux accords d'aménagement de réduction du temps de travail. Alors c'est très complexe, mais sur la durée du travail, notamment en fonction de la date à laquelle a été passé l'accord, il y a une obligation sur la modulation du temps de travail de chaque année, de revoir les conditions d'exécution de cette modulation avec les organisations syndicales. C'est jamais fait dans les entreprises. Et ça, normalement, cet accord, il est illégal. Donc là, il faudrait un contrôle, vérifier que cet accord est illégal et dire à l'employeur, ah bah, vos salariés, ils sont pas annualisés sur 1607 heures, mais je vous informe que on doit payer les heures sup à la semaine. Au-delà de 35 heures, c'est des heures supplémentaires. Mais voilà, mais c'est pareil. Il faudrait déployer un nombre important d'agents de contrôle pour vérifier tout ça.
Et c'est pas forcément cas, dans vos priorités.
Non, bah non, là, on est en baisse d'effectifs, donc c'est pas ça, quoi.
Enfin, quand je disais dans vos priorités, dans celles qui peuvent aussi vous être imposées.
Oui, tout à fait.
Sur ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Sur la réforme et...
Bah oui, il y a 18 millions de salariés, 1,8 million d'entreprises en France, et on est moins de 2200 agents de contrôle en France, donc voilà.
Ça veut tout dire.
C'est pas la priorité du gouvernement, non, que de contrôler l'effectivité du droit. Du travail, pardon.
Et en plus, vu la loi travail, si elle est appliquée, donc... Là, ça deviendrait encore plus complexe.
Complexifier la tâche, ça c'est sûr.
Ou alors, et c'est aussi quelque chose qu'on voit et, aussi dans la fonction publique, arriver à prouver que ces contrôles sont inutiles et qu'il n'y a pas besoin de...
Voilà. Ben, en fait... C'est déjà dans l'air du temps dire qu'on est inefficace, que notre action n'est pas visible, mais ça dépend qui le dit, quoi. Enfin, on voit bien que là, le gouvernement et le MEDEF pensent qu'on n'est pas l'effectif, enfin, on n'est pas visible pour eux. Donc visible pour eux, c'est d'aller sur des actions, on va dire un peu le travail illégal, les chantiers de tout ce qui est le détachement de travailleurs étrangers, qui n'est pas, enfin, je dis pas que c'est pas quelque chose qu'on doit aller, mais voilà, c'est des actions coup de poing, c'est des actions ministérielles d'ampleur pour aussi déresponsabiliser aussi l'action du ministère, enfin, du ministère du travail sur certains éléments. Mais voilà, c'est toujours pareil, hein, ça dépend. Le discours ambiant, c'est de dire qu'il y a trop de fonctionnaires aujourd'hui, qu'on coûte trop cher, et qu'en plus on veut emmerder les patrons, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, non, on est effectivement mal vu, en tout cas par l'opinion de droite de manière générale, et par le patronat et les entreprises et maintenant le gouvernement, oui.
Qu'il nous reste peu de temps, je propose qu'on termine un peu à revenir sur les objectifs résumés de la loi travail. On évoquait au début de l'émission le fait que elle avait été créée dans le but de créer de l'emploi.
Flexibiliser, créer de l'emploi.
Voilà, donc on a pu se rendre compte, je pense qu'au fil de ce qu'on a pu se dire, que c'était effectivement pas évident. Parce que ça crée aussi, je pense, une incertitude pour les salariés en place, qui fait qu'on va peut-être pas justement dépenser beaucoup, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, donc consommer moins.
Mais en fait, c'est un... Le débat, il est biaisé. Aujourd'hui, un patron peut faciliter, enfin, peut licencier facilement.
Bien sûr.
Il peut licencier facilement. Il n'y a aucun garde-fou. Aujourd'hui, si le salarié conteste, il ira au prud'homme, etc. Mais du jour au lendemain, un patron, il peut très bien trouver une faute ou un argument pour licencier un salarié. Aujourd'hui aussi, il y a le développement de la rupture conventionnelle depuis 2008, quand même, qui a facilité, qui a aidé les entreprises aussi à séparer sans donner un motif valable. Alors le salarié doit accepter également, hein, on dit que c'est une rupture d'un commun accord, entre le salarié et l'employeur, mais nous on a vu une montée exponentielle des ruptures conventionnelles dans les entreprises. Donc aujourd'hui il n'y a pas de difficulté en France avec les dispositions légales qui est prévues pour licencier facilement les salariés. Donc le discours aujourd'hui est de dire avec ce projet de loi en tout cas ça va encore plus faciliter, mais non, parce qu'on crée pas de l'emploi en facilitant les licenciements.
Voilà. Non, par contre par rapport à tout ce qui est question de temps de travail, ça peut amener à faire travailler les gens plus sans les payer plus et ne pas embaucher à côté.
Ah bah oui, également. Bah oui, c'est travailler plus pour gagner moins. Et c'est vrai que l'employeur, il a aucun intérêt à embaucher une nouvelle personne s'il peut payer moins ses salariés pour faire plus de travail. Donc c'est vrai que même quand on regarde ce projet de loi travail, on se dit que c'est l'effet inverse qui va arriver. Puisque les gens, effectivement, ils vont travailler plus en étant moins bien rémunérés. Donc pourquoi l'employeur, il embaucherait plus de personnes ? Il va pouvoir licencier plus facilement les gens. Mais pour autant, ça ne l'obligera pas à embaucher plus facilement les salariés. Donc on est vraiment sur...
Dans ce projet de loi, il n'y a aucune contrepartie, aucune garantie pour les salariés. En fait, il n'y a rien d'obligation d'embauche. Mmh. Alors par exemple, moi j'ai les 35 heures à la loi Aubry, j'étais défavorable parce que de toute façon, il y avait l'annulation de la flexibilité hein, dans ces 35 heures. Mais à la rigueur, le minimum, c'est qu'il y avait au départ, tout au départ, en 2000-2001, des obligations d'embauche. Aujourd'hui, avec le projet de loi, il y a rien du tout de tout ça. Il n'y a aucune obligation d'embauche, quelle que soit, hein, dans tout ça.
Oui, il y a l'inversion de la hiérarchie des contraintes également
oui,
aussi.
Non, mais... Ah si, on pourrait te répondre qu'il y a le fameux compte pénibilité, etc., qui est prévu dans la loi travail. Mais bon, le compte pénibilité, au départ, c'est quand même la contrepartie de l'augmentation de la durée de la retraite. C'était les négociations syndicales qui avaient prévu ça, et c'est pas la contrepartie de la flexibilité qui est prévue aujourd'hui par la loi travail. Donc, ce qu'on nous raconte. C'est du foutage de gueule, quoi, franchement, clairement.
Donc oui, la question qu'on aurait pu se poser, est-il encore possible de la retoucher ? Ou faut-il un retrait pur et simple ? Elle est claire.
Nous, c'est vrai qu'au niveau du syndicat des avocats de France, on est pour, depuis le départ, on est pour le retrait total de cette loi. Alors, et comme les organisations syndicales, ça a toujours été le discours, on retire cette loi, c'est la priorité, et puis on peut, nous, vous proposer un autre code du travail. On a des idées pour vous proposer un autre code du travail, mais en tout cas, c'est pas celui-là qu'on veut.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. On n'a carrément pas rempli
l'objectif de l'émission.
L'objectif est traiter tous les sujets. On a été très, très ambitieuses, je pense. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une autre émission. Ben, volontiers. Et on vous dit à dans 2 semaines. Et on vous laisse avec le Canu Info.